Bonjour David Rigoulet-Rose.
Bonjour.
Nous n'avons jamais soutenu une augmentation du niveau de tension dans la région. Ce sont les mots du ministre iranien des Affaires étrangères, Amir Abdollahian, le chef de la diplomatie iranienne, qui précisait la position de Téhéran après les tirs de drones et de missiles sur Israël. Des tirs qui, on le rappelle, ont presque tous été interceptés, selon Tel Aviv. Alors l'Iran assure avoir prévenu ses voisins du lancement de cette opération, qu'elle assure aussi avoir voulu limiter est circonscrite. On rappelle qu'il s'agit d'une riposte à des frappes imputées à Israël sur une annexe du consulat iranien à Damas. Est-ce qu'on peut dire que Téhéran a fait preuve de retenue et selon vous, pourquoi ?
Il y a effectivement, au regard de ce qui s'est passé, il y a du point de vue de Téhéran, un relatif calibrage de la réponse justement à ce qui était considéré comme une frappe israélienne sur l'annexe consulaire de l'ambassade iranienne à Damas. Néanmoins, quand même, quand on regarde le nombre de missiles qui ont été envoyés, de drones et de missiles, c'est quand même très conséquent. Alors, il se trouve que les dégâts ont été finalement peu importants, puisque vous l'évoquiez, près de 99 de ces tirs auraient été abattus. Donc, ce qui
99%, présenté, il me semble.
Donc, de ce point de vue-là, Israël peut se prévaloir d'un certain succès. C'est d'ailleurs là-dessus qu'insiste le président Joe Biden pour dissuader l'État hébreu de faire une réplique à cette attaque iranienne.
À ce sujet, pour rebondir juste sur ce que vous disiez, donc c'est la République islamique menait sa guerre un petit peu par procuration via notamment le Hezbollah. Pourquoi là avoir finalement franchi le cap ?
Téhéran a considéré, à tort ou à raison, qu'il était dans la nécessité, d'où la formulation du caractère inéluctable de sa réplique à venir, puisqu'elle a été annoncée, de la faire en tant que telle depuis le territoire iranien. Il s'agissait d'essayer de restaurer une forme de dissuasion, puis surtout, c'était aussi de répondre en termes de crédibilité aux attentes manifestées par ses mandataires, justement. Donc l'Iran a considéré qu'il ne pouvait pas faire l'économie, finalement, pour la première fois, d'une réplique directe. Ça constitue effectivement le franchissement d'un seuil qui soulève beaucoup d'interrogations. D'abord, quelle va être la réponse d'Israël ? Parce qu'Israël n'a pas l'habitude de subir une frappe sans répliquer. Et évidemment, par anticipation, l'Iran a annoncé d'ores et déjà que si tel devait être le cas, la contre-réplique iranienne serait encore plus importante que la première salve.
Pour revenir sur le discours d'Amir Abdollahian, donc le chef de la diplomatie iranienne, il assure n'avoir jamais cherché à viser le personnel et les bases des États-Unis dans la région. Et il affirme même que les États-Unis sont entraînés par Benjamin Netanyahou dans cette escalade. Pourquoi utiliser ce ton finalement assez conciliant avec Washington ?
Vraisemblablement pour éviter cette logique escalatoire qui est potentielle. Il faut rappeler que, de manière très discrète, il y a des négociations en citadin d'Oman, à Mascate, entre Américains et Iraniens depuis plusieurs semaines. Négociations indirectes, mais qui sont soutenues, et notamment, justement, après le 7 octobre, pour essayer de contenir un conflit au niveau régional. Et donc, ça s'inscrit aussi dans cette démarche, puisque les Américains avaient manifestement largement anticipé, effectivement, la frappe iranienne. Il se dit même que l'Iran aurait laissé entendre aux États-Unis qu'elle serait justement relativement calibrée pour éviter une logique escalatoire. Mais le problème, c'est que dans la dynamique régionale, il y a une logique systémique qui fait qu'on n'est jamais à l'abri d'un dérapage et que de toute façon, certains paramètres échappent aux acteurs géopolitiques en présence. Et la question qui est posée aujourd'hui, c'est quelle va être la réponse du gouvernement israélien ?
Et les appels à la désescalade se multiplient à l'international, venus des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni, qui ont d'ailleurs participé directement ou indirectement à la défense d'Israël. Il y a aussi des appels venus d'Égypte, de l'Irak ou de l'Arabie Saoudite. Est-ce que ces appels à la retenue vont, selon vous, suffire ? Et concrètement, est-ce qu'on doit s'attendre à un véritable embrasement dans la région ?
On ne peut pas l'exclure. Clairement, la plupart des acteurs sont très inquiets. Effectivement, ils manifestent les appels à la retenue pour éviter un risque escalatoire qui est bien présent, malgré tout. Et ça va dépendre très largement, en réalité, de la réponse israélienne à ce qui vient de se passer, d'où les pressions américaines, hein, sur les uns comme sur les autres, d'ailleurs. puisque les États-Unis ont exprimé de manière publique qu'ils n'avaient pas du tout l'intention de rentrer dans un conflit ouvert avec l'Iran. De l'autre côté, d'ailleurs, la même chose est vraie. Simplement, effectivement, l'Iran a pris un risque, calculé peut-être, mais un risque notable, puisque, effectivement, c'est la première fois que Téhéran frappe en tant que tel.
Et ce sont des hostilités qui interviennent en pleine guerre à Gaza, où les bombardements israéliens se poursuivent. Est-ce que, selon vous, ces récentes tensions entre l'Iran et Israël peuvent avoir des conséquences sur le terrain dans l'enclave palestinienne? Je pense notamment aux négociations qui patinent toujours au Caire. Est-ce que ça peut faire pencher la balance, justement, pour encore plus faire pression sur un cessez-le-feu?
Il est peu probable que ça fasse pencher la balance de ce côté-là. Ça va plutôt induire un raidissement du gouvernement israélien compte tenu de ce qui s'est passé. D'autant plus que le Hamas vient d'annoncer que de toute façon, il n'allait pas revoir ses exigences jugées maximalistes et qu'il n'allait pas donner suite effectivement à l'ultime proposition qui lui avait été faite.
On le disait en début d'interview, Tel Aviv s'est félicité d'avoir intercepté 99% des missiles et des drones envoyés hier sur son sol. Et d'un autre côté, Téhéran a quand même prouvé, vous le mentionnez, sa capacité à frapper son ennemi directement. Alors, est-ce qu'on peut finalement sortir un vainqueur de cette séquence?
Ça dépend de quel côté on regarde, petit ou du grand côté de la lorgnette, puisque les deux peuvent considérer, à tort ou à raison, que finalement ils sont gagnants ou perdants. En réalité, ça dépend du point de vue, parce que effectivement, l'Iran a réussi à faire une frappe de quelques 300 drones visant directement le territoire israélien, mais quasiment aucun de ces lancements n'a eu un effet majeur en termes de dégâts sur le territoire israélien, ce qui permet aux Israéliens de considérer qu'effectivement leur sanctuarisation, notamment avec Iron Dome et le système Arrow, est un succès. C'est d'ailleurs là-dessus qu'a insisté Joe Biden pour décourager une éventuelle réplique israélienne en leur disant que finalement ça avait prouvé que l'État hébreu était sécurisé par rapport à une menace balistique extérieure. Mais ça ne suffira pas forcément, justement, au gouvernement israélien, compte tenu de son fonctionnement général.
Ah bah écoutez, merci beaucoup, David Rigoulet-Rose, d'avoir été avec nous sur Média.
Merci.